méditation, la réflexion à partir de ce texte de l'évangile de Luc. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 10. Nous allons lire les versets 1 à 16. Donc la semaine dernière, la fois dernière, nous avons vu les derniers versets du chapitre 9, dans les versets 57 à 62. Il est dit qu'alors que Jésus était en chemin donc pour aller à Jérusalem pour offrir sa vie en sacrifice, il y a trois hommes qui l'ont interpellé et qui disaient vouloir le suivre. Et le Seigneur Jésus a répondu et a rappelé quelles sont les conditions nécessaires que chaque disciple qui voulait le suivre devait donc consentir. Donc il disait à l'un qu'il devait être prêt à vivre avec le strict minimum. Il devait être prêt à renoncer à tout. Il dit car le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre qui lui disait de donner la priorité aux choses de Dieu, même à certaines choses qui peuvent paraître légitimes. Laisse les morts ensevelir les morts, il dit, et d'aller annoncer le royaume de Dieu. Et puis, troisième homme, il lui disait de ne pas avoir un cœur partagé, mais d'être prêt à s'engager sans réserve. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, quelle a été la réponse de ces trois hommes? Ont-ils répondu favorablement à l'appel du Seigneur pour être ses disciples, après avoir entendu les conditions que le Seigneur leur a données? Ou ont-ils dit à Jésus, ce que tu nous demandes là est trop difficile, nous préférons retourner à nos occupations? Nous ne le savons. Et j'aimerais vous poser aussi cette question par rapport à ce qui a été dit. Avez-vous dit au Seigneur, qu'étant donné que vous l'avez reçu dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur, puisque vous êtes son disciple, serez-vous prêt à le suivre pour aller là où il vous demandera d'aller et de faire ce qu'il vous demandera de faire? Après avoir examiné votre cœur, y avez-vous trouvé une chose qui prendrait la place de Dieu et qui vous empêcherait d'obéir à ce que Dieu vous demanderait de faire? On écoute des messages, mais on prie que Dieu puisse travailler nos cœurs et il attend de nous une réponse. Ou est-ce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, oui, comme cet homme, je suis prêt à aller là où tu voudrais que j'aille, mais ne me demande pas d'aller à tel ou tel endroit. Ne me demande pas de faire telle ou telle chose. Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord m'occuper de telle ou telle chose. Quelle a été notre réponse aux conditions données par Jésus? Donc nous ne savons quelle a été la réponse de ces hommes, mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a continué sa route vers Jérusalem. Et parmi les personnes qui le suivaient, donc hormis les douze apôtres, il y avait beaucoup d'autres personnes qui accompagnaient Jésus. qui croyaient que Jésus était le Messie qu'ils attendaient, qui avaient mis leur foi en lui. Ces personnes qui avaient donc répondu à son appel et ont fait le choix de le suivre et d'aller là où il allait. Et parmi toutes ces personnes, le texte que nous allons lire nous dit que le Seigneur va choisir 70 autres disciples, donc différents des 12 apôtres, pour les envoyer eux aussi, deux à deux, dans les villes ou villages qu'ils devaient traverser jusqu'à Jérusalem. Et donc c'est ce texte que nous lisons ensemble. Et nous lisons qu'il est dit au verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Semer, servir le maître dans sa moisson, tel est le titre que j'ai donné à cette prédication. Puisque le Seigneur dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Notons, frères et sœurs, que le Seigneur aurait pu confier aux 12 apôtres cette mission d'aller devant lui pour aller annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Puisque les 12 apôtres avaient déjà eu cette expérience. Au chapitre 9, dans les premiers versets, il est dit que Jésus, donc il va choisir donc parmi les disciples 12 et qu'il va les envoyer avec les mêmes demandes, avec les mêmes recommandations. Alors ma question c'était, mais Seigneur, pourquoi tu ne leur as pas demandé aux 12 apôtres de refaire le même travail, d'aller devant toi pour qu'ils disent que le royaume de Dieu s'est approché. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas confié cette mission aux 12 apôtres? Et pourquoi a-t-il préféré confier cette mission à 70 autres disciples? La réponse est, oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En choisissant 70 autres disciples, et non les 12, pour leur confier cette mission, donc d'aller de ville en ville et dans tous les lieux où ils devaient aller, le Seigneur rappelle à tous ses disciples justement que la moisson, elle est grande. Il y a donc beaucoup de choses à faire et qu'il ne peut pas toujours demander aux mêmes de faire le travail, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. Donc je rigole parce que c'est ce que nous rappelait notre frère il y a quelques minutes. Retenons, frères et sœurs, que seul petit groupe de personnes, les 12 apôtres, un seul petit groupe de personnes ne peut faire à lui tout seul le travail parce qu'il y a beaucoup à faire. Et nous avons besoin de comprendre cela, et notre frère nous a donné un exemple tout à l'heure. Souvenons-nous qu'après avoir envoyé les 12 apôtres pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle de village en village, et vous tournez une page au chapitre 9, les versets 1 à 6. Luc nous dit, versets 10 à 11, que les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, et le Seigneur Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté, il est dit, d'une ville appelée Bethsaïda. Et Marc nous dit dans son évangile que Jésus leur dit: « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et donc, le Seigneur partit avec eux dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Là, c'est au chapitre 9. Puisqu'après tout le temps que ces 12 apôtres ont passé pour annoncer l'évangile de village en village, ils ont annoncé la bonne nouvelle, les apôtres sont revenus auprès de Jésus pour lui dire ce qu'ils avaient fait. Et le Seigneur Jésus a vu que ses apôtres étaient fatigués, qu'ils avaient besoin de temps pour qu'ils puissent se reposer et passer un temps dans l'intimité avec leur maître. Mais comme la moisson, elle est grande, frères et sœurs, ils n'ont même pas eu le temps de manger et de se reposer parce que il y avait une grande foule qui suivait Jésus, qui était là comme des brebis languissantes qui n'avaient point de berger. Et là, le Seigneur va encore les solliciter pour leur dire, voilà, mais que ferons-nous de cette foule? On ne peut pas les renvoyer. Alors les disciples fatigués disent, mais non, renvoie-les. Mais le Seigneur dit, il est déjà tard. Donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur va multiplier les pains pour nourrir ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La moisson, elle est grande. Les disciples, les 12 étaient fatigués, mais il y avait encore du travail à faire. Et le Seigneur va encore les solliciter va encore les instruire à travers ces miracles. Le Seigneur a dit à juste titre donc que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il aurait pu solliciter encore ses 12 apôtres, mais il ne l'a pas fait, car il savait qu'il y avait d'autres disciples qui pouvaient accomplir pleinement cette tâche et que les 12 avaient peut-être besoin de se reposer ou avaient autre chose à faire. Nous ne le savons. Accomplir une autre mission ou passer du temps avec le maître pour pouvoir être enseigné par lui. En choisissant les 70 autres disciples, le Seigneur Jésus nous montre que annoncer le royaume de Dieu n'est pas l'affaire de quelques-uns. Ceux qui sont à plein temps, comme les 12 apôtres, ou anciens ou diacres, mais ça doit être l'affaire de tout disciple. Et puisqu'il y a peu d'ouvriers, si tous les disciples ne se mettent pas au service de leur Seigneur pour faire ce qu'ils demandent, le risque, c'est de voir le peu d'ouvriers déjà à l'œuvre finir par s'épuiser, puis abandonner le travail dans la moisson. Et par conséquent, il y aura encore moins d'ouvriers dans la moisson. C'est là le risque. Et c'est ce que nous expérimentons, c'est ce que nous voyons. La moisson, frères et sœurs, représente les âmes de ces personnes qui ont besoin du salut. Le Seigneur a besoin d'avoir des ouvriers pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. La moisson peut aussi représenter tout le travail qu'il y a à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit pour évangéliser, pour affermir les disciples, pour gérer les choses. On voit dans Actes chapitre 6, il y avait tellement de personnes qui se tournaient vers Jésus-Christ. Ils avaient tellement de choses à faire. Les apôtres étaient débordés parce qu'il y avait finalement après des discussions, des disputes entre les juifs d'origine grecque et d'autres qui sont de Palestine. Et puis l'apôtre Pierre dit, mais c'est pas possible que nous délaissions la parole pour pouvoir servir aux tables. Et il va dire, donc choisissez parmi vous des personnes à qui on va confier cette tâche. La moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Là encore, c'était aux 12 de s'occuper de tout. Et en plus, il fallait qu'ils fassent autre chose. Et ils vont choisir parmi eux des hommes remplis d'Esprit Saint, etc. Et à qui on va confier cette tâche. Actes chapitre 6. La moisson, elle est grande. Je vous donne un autre exemple. Au chapitre 11 de l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, pardon. Donc, je disais que par rapport à Jérusalem, mais pas seulement à Jérusalem, il y avait cette persécution à cause, après la mort d'Étienne. Donc les Juifs sont partout, sont repartis un peu partout. Et il est dit au verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Quelle moisson, frères et sœurs. Vous voyez que, je dirais, grâce à la persécution, là, les disciples vont partir et ils vont semer. Et il y a beaucoup de personnes qui vont mettre leur foi en Jésus. Et la moisson était tellement grande que les disciples ou les apôtres, les frères et sœurs de l'église de Jérusalem, dit voilà, il faudrait qu'on envoie des personnes, des disciples à Antioche pour pouvoir aider ces jeunes chrétiens. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres, ils auraient pu y aller. Non, ils avaient certainement autre chose à faire. Ils ont demandé à Barnabas d'y aller. Et Barnabas a répondu à l'appel. Il est allé à Antioche pour exhorter cette église. Et puis il y avait tellement de travail, il est allé chercher l'apôtre Paul. La moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et Barnabas a répondu à l'appel. L'apôtre Paul, il commençait au tout début de sa vie chrétienne, et à quelques années de vie chrétienne. Et là, Barnabas l'avait déjà accompagné. Bonjour. Donc, le connaissait déjà. Et il dit, l'apôtre Paul serait la bonne personne pour venir m'aider dans cette tâche. Et là aussi, Paul a répondu à l'appel. Le Seigneur Jésus voit dans les disciples, là où déjà les gens, les champs blanchissent pour la moisson. Il voit déjà, et c'est ce qu'il disait dans Jean chapitre 4, versets 34 à 38, après avoir discuté avec la femme samaritaine, ses disciples reviennent avec de quoi manger, et il leur dit, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le Seigneur dit, voici, il voit déjà les champs qui blanchissent, la moisson elle est là, chez les Samaritains. Puisque cette femme va aller, et elle va dire, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et là, dans ce village, ils vont accueillir Jésus. Et le Seigneur va leur parler et ils vont lui dire, ce n'est plus à cause de ce que tu m'as dit que nous croyons, mais nous avons vu et nous croyons qu'il est le Messie. Et donc, cette moisson était là. Les disciples ne les avaient pas vus, mais le Seigneur le savait déjà. Le Seigneur nous dit donc que la moisson est grande, mais il est obligé de constater qu'il y a peu d'ouvriers pour travailler dans sa moisson. Car malheureusement, beaucoup disent vouloir le suivre, mais refusent de se soumettre à ses exigences. Et c'est pour cela aussi qu'il demande à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc, c'est là aussi, frères et sœurs, notre responsabilité en tant que disciples, de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, mais nous devons nous-mêmes être prêts à répondre à l'appel du Seigneur s'il nous demande d'être cet ouvrier. Et là, le frère, il a annoncé, il y a eu un appel pour trouver des ouvriers pour venir aider, pour remplacer, pour soulager. Est-ce que nous allons répondre à cet appel ? L'appel, ce n'est pas d'aller à l'autre bout du monde. Dieu appelle certains à cela. L'appel, ce n'est pas toujours de quitter son travail. Dieu appelle certains à cela. Mais Dieu nous appelle dans les petites choses à répondre. Oui, Seigneur, je suis là, je suis prêt à faire les plus petites choses que tu me demandes. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle aussi dans les grandes. Et répond donc à l'appel de notre Seigneur pour être ses ouvriers dans sa moisson. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Quelle grâce! Vous imaginez, le Dieu créateur de toutes choses dit que je veux que vous soyez participants dans mon œuvre. Quelle grâce! Il sait, frères et sœurs, que beaucoup ont faim et soif de sa parole. Beaucoup sont dans l'attente de pouvoir entendre cette parole parce qu'ils savent qu'il leur manque l'essentiel. Ces personnes que le Seigneur appelle ses enfants de paix, qui aiment vivre en paix avec leurs prochains et qui sont prêts à accueillir tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui apportent cette bonne nouvelle. Le Seigneur dit, voilà, vous allez entrer chez eux, vous allez rester chez eux. Les villes ou les villages où vous allez entrer, où les gens sont disposés à entendre ce message de paix que vous allez leur apporter, vous allez rester là avec eux. Et s'ils ne vous accueillent pas, alors vous partez et vous secouez la poussière de vos pieds. Le Seigneur envoie ses disciples pour préparer le terrain. Il nous envoie pour préparer le terrain pour que lorsque lui-même va venir et parler au cœur de la personne pour qu'elle se tourne vers Dieu, eh bien, que la chose se fasse. Nous, il nous demande juste, prépare le terrain pour moi. J'arrive. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cet appel pour être cette lumière, être cette personne que Dieu veut utiliser pour témoigner de sa grâce et pour que lorsqu'il interviendra, que cette personne dise, mais voilà, j'avais déjà entendu et maintenant, comme dit ce verset, mon œil t'a vu. Voilà. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, pour accomplir cette mission. Le Seigneur donc demande à ses disciples donc de partir pour aller de ville en ville, en leur précisant qu'ils doivent, et c'est moi qui le traduis comme cela, apprendre à dépendre de lui. Dépendre de lui pour leur protection, pour leurs besoins de chaque jour et pour pouvoir vivre aussi, savoir vivre dans le contentement. Et c'est comme ça que nous pouvons servir le Seigneur et c'est lorsqu'il envoie ses disciples, c'est ce qu'il leur demande. Le servir dans la moisson en apprenant à dépendre de Dieu pour notre protection. Les disciples, ils doivent travailler dans sa moisson et ils doivent accomplir leurs tâches en apprenant donc à dépendre de leur Seigneur. Le Seigneur leur dit, voilà, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, il sait que ses enfants seront là faibles. Ils seront, il y aura la proie, il y aura les autres qui sont là, qui vont les attaquer, qui vont vouloir leur faire du mal. Comme des agneaux. Mais nous avons un bon berger. Nous avons le berger qui est là, qui protège sa brebis. Donc, tu n'as pas à avoir peur, puisque le berger, il est avec toi. Il va t'accompagner. Et le Seigneur Jésus lui-même était cet agneau. Il est venu comme cet agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès le début, il a été confronté au loup. Dès le début de son ministère et même de sa vie. Le diable était là comme ce loup qui voulait le dévorer. Hérode qui voulait le tuer dès sa naissance. Après lorsqu'il commence son ministère, Satan qui vient le tenter pendant 40 jours, il est là, cet agneau qui veut, ou que le diable veut dévorer, l'empêcher d'accomplir sa mission. Et lorsque à Nazareth, dans la ville où il a grandi, il leur dit, voici que le Seigneur est avec lui et qu'il est venu annoncer la guérison, il est venu annoncer toutes sortes de les bienfaits que Dieu avait annoncés par le prophète Ésaïe. Il dit, voilà, tout ça, aujourd'hui, c'est accompli. Et lorsque il commence à dire, voilà, que du temps d'Élisée, il y avait telle femme, eh bien, Dieu est venu à son secours. Du temps d'Élie, il y avait la veuve de Sarepta, Dieu est venu à son secours. Et il ne l'a pas fait pour les Israélites. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils se sont mis en colère. Et ils voulaient le tuer. Ils furent, il est dit, tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. L'agneau parmi les loups. Les apôtres aussi ont été ces agneaux. Et courageusement, on les a mis en prison, on les a battus. On leur a demandé de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette phrase, Pierre et Jean qui leur disent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, etc., etc. Étienne qui a été lapidé. Les chrétiens, comme on l'a vu, qui étaient persécutés avec un Saul qui voulait exterminer tous les chrétiens parce que pour lui, ils étaient dans une secte. Mais le Seigneur va le toucher aussi. Les disciples comme les agneaux au milieu des loups. Et le Seigneur dit, je suis là avec vous, et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'autre chose, c'est que nous devons servir dans la moisson, en apprenant donc à dépendre de Dieu pour nos besoins de chaque jour. Le verset 4 à 6, il dit, « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Les disciples ne doivent pas s'embarrasser des choses si ce n'est du strict nécessaire, le strict minimum. Il leur demande de rester dans la maison qui les recevra, mangeant et buvant ce qu'on leur donnera. Donc, il leur dit, ne soyez pas difficiles. Ne soyez pas comme des enfants gâtés qui, ils arrivent là, on leur donne ça, « Ah, ça, j'aime pas. » Eh bien, ils vont aller ailleurs, dans une autre maison, où peut-être ça sera beaucoup plus confortable. Non. Le Seigneur leur dit, « Là où vous entrez, si on vous accueille, bien, vous restez là. » Vous n'allez pas changer de maison en maison, sous peut-être que vous n'êtes pas content de l'accueil qu'on vous a fait. Puisque c'est Dieu va utiliser les uns et les autres pour pouvoir avoir vos besoins. L'ouvrier mérite son salaire. Et donc, dans ce texte de Matthieu, chapitre 6, verset 25, le Seigneur rappelle cela. Alors, Matthieu, chapitre 6. Alors, vous avez les références. On ne va pas tout lire. Où le Seigneur dit, je vais lire le verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc le Seigneur aussi s'attend à ce que les personnes qui donc bénéficieront de sa grâce dispensée par ses disciples, que ces personnes pourvoient aux besoins de ses serviteurs qui travaillent dans sa moisson. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Corinthiens chapitre 9, versets 4 à 18. La troisième chose que j'aimerais souligner de ce texte, c'est que nous pouvons servir dans la moisson en apprenant à vivre dans le contentement. Et le Seigneur dit au verset 7, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Voilà. Restez là où on vous a accueilli. » Et l'apôtre Paul, on a cet exemple au chapitre 4 de Philippiens, où il dit aussi qu'il a appris à se contenter, et c'est pour ça que nous devons apprendre cela aussi. Alors qu'il était dans des situations très précaires, il dit au chapitre 4 de Philippiens, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous voyez ? Il a appris à être content dans l'état où il était. Et il nous exhorte, et il exhorte ces personnes qui font les choses pour l'argent, qui veulent tout le temps s'enrichir. Il dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Quand on est disciple de Jésus, on se contente de ce qu'on a. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de ses enfants. Et il y a cette promesse dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » L'amour de l'argent. Il y a même ceux qui pensent servir le Seigneur pour l'argent. Le Seigneur Jésus a demandé donc aux 70 disciples que lorsqu'ils vont rencontrer des personnes dans ces villes, au village ou dans ces maisons, il leur dit que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Que les personnes les reçoivent ou ne reçoivent pas. Il dit, vous leur direz ça. Et telle est aussi notre mission. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus et laisser Dieu faire son œuvre dans les cœurs. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. Et dans Actes chapitre 17, versets 30 à 31, l'apôtre Paul disait aux Athéniens que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et donc, il parle du Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 2, verset 16, il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, vous voyez qu'à la fin du texte, il parle donc de ceux qui ne vont pas recevoir la parole. Il dit au verset 12, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Après, il parle de Chorazin et de Bethsaïda. Il dit, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et donc là, il y a cet avertissement. Pour ces personnes qui entendent la parole de Dieu, ces personnes qui entendent, oui, le royaume de Dieu s'est approché. Vous avez entendu la parole de Dieu. Comment, quelle réponse allez-vous donner à ce message disant que Jésus-Christ est le seul moyen de salut? Jésus-Christ, il a donné sa vie pour vous. Et que vous pouvez devenir un disciple de Jésus si vous mettez votre foi en lui. Si vous croyez que c'est pour vous qu'il a donné sa vie. Pendant tout ce culte, nous avons pris la scène nous rappelant le sacrifice de Jésus. Qu'allez-vous faire de tout cela? Est-ce que vous serez comme ces gens qui, ces enfants de paix qui attendent et qui veulent recevoir la paix de Dieu que nous pouvons avoir qu'en Jésus-Christ? Ou est-ce que vous allez repousser à demain et encore, ou bien dire ça ne m'intéresse pas, et puis juste venir parce que vous aimez bien être là, vous aimez bien les chants, vous aimez bien ceci, vous aimez bien cela, mais il n'y a rien dans votre vie? Alors là, il y a un avertissement. Vous avez entendu la parole, et que si vous résistez, alors vous serez traité plus rigoureusement que ceux qui n'ont jamais entendu. Et ça, il faut le prendre au sérieux. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Alors, je suis désolé de vous le dire, vous pouvez mettre votre nom si vous continuez à endurcir votre cœur. Et pour nous, qui avons mis notre confiance en Jésus, qui sommes disciples de Jésus, le Seigneur nous dit, partez. Le Seigneur nous confie aussi cette mission, de faire de toutes les nations des disciples, c'est ce qu'il demande. Et dans son Église, on a donné des exemples. La moisson, elle est grande, il y a du travail. Allez-vous répondre à son appel? Ou est-ce que vous allez juste être là comme un observateur? Quelqu'un qui est là, qui consomme? Ou est-ce que vous allez être acteur dans l'œuvre de Dieu? Et pour pouvoir le faire, n'oublions pas que c'est Dieu qui est notre protection et qu'il pourra nous accompagner et nous protéger des loups, et qu'il pourvoira à tous nos besoins jour après jour, et que nous devons apprendre à nous contenter de ce qu'il nous donnera, et que jusqu'au bout, jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il nous rappelle, il nous demande de mettre, de le servir et de l'honorer. Et Pierre dit dans Pierre chapitre 4, et je vais terminer avec ce verset, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.